La journée est finie bien informée
avec Benjamin Smadja et Elsa Dupéré.
Rendez-vous demain en présentiel, mais également en ligne pour une conférence extrêmement intéressante, surtout, tiens, à quelques jours des vacances scolaires, autour des troubles du développement et des apprentissages. Un défi pour tous. Conférence menée par la doctoresse Roussia Avin-Leuchter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre du développement au HUG et le docteur Joël Flous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous qui êtes neuropédiatre au HUG, merci à tous les deux d'être à distance puisque, eh bien, ça bosse, on ne peut pas vraiment vous en vouloir. Alors, cette conférence, déjà extrêmement concrètement, on va parler des troubles du développement et des apprentissages, c'est la même chose?
Quand on parle de troubles du développement, on parle très souvent du petit, puis clairement, le trouble des apprentissages, ça concerne les enfants qui sont en âge d'apprentissage scolaire, donc on parle des troubles des apprentissages pour les enfants d'âge scolaire et pas pour le petit en âge préscolaire. Maintenant, le vrai terme diagnostique, celui utilisé dans notre jargon professionnel, en fait, c'est les troubles neurodéveloppementaux qui englobent les deux, qui englobent l'ensemble des troubles qui sont en lien avec le développement, les apprentissages des enfants.
Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de troubles, mettre des mots?
Bah, par exemple, pour le petit, un enfant qui aura par exemple des difficultés dans le domaine du développement du langage ou de son interaction, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé et je pense que le public est bien au courant aussi de ce qui se passe autour de l'autisme. Bah, c'est un trouble du développement plutôt du jeune enfant, évidemment qui va perdurer dans le temps. Et puis comme trouble d'apprentissage peut-être plus connu, c'est la dyslexie.
Ah oui, les 10, alors il y en a beaucoup, il y a dyslexie, dyspraxie, C'est quoi? Ce sont des dysfonctionnements. Vous allez étudier ça?
On essaie surtout d'essayer d'identifier les enfants pour pouvoir peut-être essayer de poser des diagnostics, pour essayer de les aider aussi dans leur parcours scolaire. Je crois que c'est ça qui est important. Et puis, c'est en effet, dans la conférence de demain, c'est un peu un des défis, quoi. Le but, ce n'était pas de faire un listing de tous ces troubles, mais plutôt de mettre en avant les difficultés pour les parents, les difficultés pour nous, pédiatres, les difficultés pour l'école, les difficultés pour la société. Parce que c'est un défi réel.
Moi, je connais énormément de parents. J'imagine que vous en rencontrez beaucoup qui disent « Alors, moi, mon enfant, le pédiatre, il n'a jamais vu ça. Il s'est déjà compté jusqu'à 12. Non, mais vraiment, c'est assez incroyable. » Donc, on a toujours cette image, sauf les vôtres, bien sûr.
Tu parles de mes enfants ?
Voilà, c'est ça. On a toujours cette image. Mais comment est-ce qu'on reconnaît que notre enfant a des troubles ?
Ce que vous dites là, c'est qu'il est facile de reconnaître et très, très valorisant. Et je crois que nous, on est tous les deux parents aussi et on a vécu ça. Hein. Mon enfant marche déjà, c'est merveilleux. Et quand on est à la place de jeu, mais quelle fierté de voir notre enfant faire ses premiers pas. Et puis, si en plus, il les a fait un peu tôt, c'est vraiment source de grande fierté. Et évidemment, le corollaire à ça, c'est la source de grande souffrance quand un enfant à ces acquisitions précoces, et même après, qui sont plus tard que les autres enfants ou différemment. Et qu'on le veuille ou pas, les parents, nous, parents d'abord, mais nous professionnels aussi, on compare notre enfant aux autres enfants du même âge. Et puis, les parents, pour beaucoup de parents, quand il y a un décalage, et ça se voit, et le premier domaine dans lequel ça se voit beaucoup, c'est celui que j'ai mentionné, c'est la motricité, mais aussi dans le langage. Hein. Tous les autres enfants, la crèche parle déjà, mon enfant ne parle pas encore, etc. Et souvent, c'est vraiment source d'inquiétude. Et après, la question, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette inquiétude? Est-ce que je la banalise en disant, mais non, tous les enfants sont différents, ce qui est une réalité? Ou est-ce que cette inquiétude est suffisante pour que je me dise, aïe, il faut que j'aille consulter, il faut que j'aille en parler avec un professionnel de la santé, parce que là, il y a vraiment une réelle inquiétude.
Dans le titre du séminaire demain, de la conférence, il y a le mot « un défi pour tous ». C'est-à-dire que, voilà, j'ai mon enfant qui parle plus tard que les autres à la crèche, je vois le jugement peut-être des autres, des questionnements auprès de la directrice de la crèche, j'ai pas d'aide. Comment est-ce que je peux me lancer? Le premier pas pour un parent, il est difficile, et comment est-ce qu'il peut le faire?
Moi, j'ai envie de dire qu'on a quand même l'immense chance à Genève d'avoir un réseau très, très dense de pédiatres. Et il y a aussi d'autres professionnels de la santé, mais vraiment ce réseau très dense de pédiatres fait que chaque enfant a une pédiatre. Et c'est souvent vraiment des partenaires dans la personne idéale à aller voir en disant « mais je me fais du souci pour mon enfant ». Et pour après essayer de voir quel relais, si c'est un souci qui est vraiment important, est-ce qu'il est partagé avec ce professionnel, est-ce qu'il faut aller voir plus loin. Ça, c'est vraiment le partenaire, j'ai envie de dire, principal. Après, il y a aussi d'autres personnes. Il y a dans les crèches, par exemple, il y a des psychologues, il y a plein d'autres personnes qui peuvent être des personnes relais à qui les parents peuvent venir déposer leurs inquiétudes et puis parler de la situation de leur enfant et qui peuvent être vraiment en partie de très, très bons conseils. Mais je dirais que le pédiatre, c'est vraiment, ça reste la personne centrale, le pédiatre.
Et j'imagine que, comme toujours avec le corps médical, c'est aussi une question de confiance, parce que certains parents peuvent faire un rejet également du diagnostic.
Complètement. Peut-être juste pour rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Roussia, mais la question aussi en fait du défi, c'est aussi en effet de pas banaliser, mais pas non plus surenchérir, si vous voulez. C'est ça aussi une des difficultés. C'est pas tout médicaliser, tous les enfants adressés chez des médecins, puis des bilans complets et ainsi de suite. Donc, c'est finalement trouver la bonne balance. C'est une grande variabilité, comme Dr. Slechter l'a dit. Et puis, il faut identifier les enfants qui vraiment nécessitent des soins et des soutiens. Et donc, ça nécessite, donc c'est un défi. C'est pas un défi que pour nous, que pour les parents, mais pour la crèche. Parfois, les intervenants de la crèche ont peur de dire aux parents, ben, tel et tel enfant, ben, nous, il nous fait souci, on trouve qu'il est différent dans son développement. Donc, tout ça, c'est en effet être nuancé.
Donc, c'est être diplomate, un peu psychologue également ?
Absolument. Oui, ben, ça fait partie de ces défis. Et puis, comme on le voit, il y a des parents très inquiets qui vont consulter très vite et d'autres qui ont tendance peut-être à banaliser ou qui vont dire, ah, mais moi aussi, j'ai marché très tard. Donc, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai parlé à l'âge de 3-4 ans, donc c'est normal que mon enfant ne parle pas. Mais l'enfant n'a pas forcément la même trajectoire de développement que ses parents. Donc, en effet, l'appui du pédiatre comme premier relais de première attention, mais souvent aussi, de nouveau, les personnes en crèche sont extrêmement utiles pour nous. Et puis là, pour ma part, pour l'école, ben, c'est évidemment les enseignants qui vont repérer qu'un enfant peut être en 1P, 2P, ben, a de la peine à maîtriser le code alphabétique, les nombres lui semblent très abstraits. Et ainsi de suite. Et ça peut être des prémices de difficultés qui vont en effet perdurer.
Est-ce que vous sentez le besoin, par rapport à cette conférence toujours demain, d'interpeller aussi les enseignants, puisque si vous organisez cela, c'est qu'il y a un besoin. Vous nous dites qu'effectivement, il y a beaucoup de relais, on peut parler à tout le monde, mais si vous organisez cette conférence, c'est bien parce que cela est compliqué, ce parcours. Malgré tout, j'entends beaucoup de parents, on entend beaucoup le mot de parcours de combattant. Est-ce que cette conférence est une façon d'aller plus vite ou d'interpeller ? On sait bien que vous n'êtes ni politicien ni enseignant. Vous êtes en lien avec…
Très clairement, il y a quand même des formations qui se font maintenant au niveau du DIP, au niveau de l'OMP pour les enseignants et puis qui sont l'Office médico-pédagogique est vraiment le premier relais de difficultés qui surviennent à l'école. Donc, les formations sont là. On entend quand même beaucoup les enseignants, notamment peut-être parfois du secondaire, nous confier que leur connaissance reste parfois un peu lacunaire, qu'ils ont de la peine à savoir si tel et tel trouble est réel ou non. Est-ce que c'est vraiment une dyslexie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux l'élève? Est-ce qu'il faut mettre en place des adaptations? Donc, je pense que c'est en effet, en général, on a une bonne collaboration de manière globale avec les enseignants et je pense qu'il y a un échange qui est de plus en plus aisé depuis quelques années. On arrive à ne plus avoir ce clivage entre ce monde psychologique, médical et puis le monde de l'enseignement. Si parfois, évidemment, ça persiste.
C'est peut-être aussi qu'on en parle dès la formation pour les enseignants ou dès la formation aussi pour les médecins ?
Non, absolument. Moi, j'ai envie de dire qu'on ne va pas faire un plaidoyer pour que les choses soient différentes, aller plus vite, mais vraiment… Cet aspect de défi nécessite la collaboration de tout le réseau autour de l'enfant. Et je dirais que tout le monde se rende compte que c'est un défi pour chacun, pour chacune au sein de ce réseau. Et c'est qu'une collaboration, une communication vraiment assez intense autour de ces situations compliquées qui font avancer les choses le plus vite possible.
Mais j'ai quand même le sentiment, après je ne suis pas professionnel comme vous, mais que c'est un peu plus accepté aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société où on sait bien que chacun est différent, que chacun est unique, donc on peut avoir tel ou tel trouble potentiel. Ah, le docteur Leuter n'est pas sûr.
Ben, disons que ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que les troubles 10, dont vous parliez tout à l'heure, ça c'est effectivement… devenu suffisamment connu et suffisamment accepté avec des mesures qui sont suffisamment claires. Alors même ça, c'est à discuter, mais disons qu'en tout cas, ce qui sont partiellement en place dans les écoles pour permettre à ces enfants d'avoir une trajectoire très inclusive, j'ai envie de dire, ce qui est le souhait de la société actuellement. Si maintenant, moi, je regarde pour ma population des enfants plus jeunes, des petits qui ont aussi parfois des troubles, j'ai envie de dire, plus sévères, même si peut-être cette graduation est peut-être pas très, très juste, mais disons quand même qui ont vraiment des trajectoires extrêmement atypiques, qui ont vraiment des difficultés extrêmement importantes. Là, la souffrance reste grande, les difficultés restent grandes. Voilà, l'accès à une prise en charge optimale est difficile et l'acceptation des diagnostics, la reconnaissance des diagnostics, puis après l'acceptation et la mise en place de tout ce qu'il faut reste difficile. Donc, ça reste franchement un vrai défi.
Est-ce qu'on connaît les origines ou les causes des troubles? Elles sont diverses, mais est-ce que, de nouveau, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Qu'est-ce qui va causer ou qu'est-ce qui peut causer à mon enfant des troubles ou de l'autisme?
Alors peut-être, on va peut-être pas se restreindre à l'autisme, hein, qui est un des troubles neurodéveloppementaux, mais je dirais que globalement, les troubles neurodéveloppementaux, pour faire très simple, plus ils sont sévères et plus une cause génétique est souvent présente, où il y a une cause, j'ai envie de dire. Hein. Plus le trouble est sévère, plus on trouve une cause qui est souvent, mais pas toujours, une cause génétique. Mais voilà. Après, plus le trouble est léger, et plus c'est compliqué, on parle beaucoup de causes multifactorielles avec des causes qui peuvent être des facteurs de risque, par exemple biologiques ou périnataux. Hein, on parle particulièrement des enfants qui sont nés prématurément, qui sont à risque d'eux. Ce n'est pas une origine, ce n'est pas une cause de trouble, mais ça les met à risque d'eux. Ça peut être des facteurs de risque familiaux, des familles où, comme disait tout à l'heure Joël Flousse, dans la famille, on parle un peu tard. Peut-être que ça s'ajoute à autre chose, à une prématurité, à d'autres causes. Donc, quelque chose d'un peu multifactoriel qui peut finalement avoir comme conséquence un trouble.
Et j'aimerais justement qu'on revienne sur ce que vous nous disiez un peu plus tôt, docteur Joël Flousse, à savoir quand est-ce qu'il faut que l'on commence à s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas de moment précis, c'est ce que vous nous disiez avant. Donc, à quel moment est-ce qu'on fait le différentiel entre « bon, bah, mon enfant marchera tard », pour prendre un exemple parmi d'autres, et « tiens, c'est quand même étrange ».
Bon, c'est une question de persistance du décalage. Et puis, évidemment, entre les problèmes de langage et les problèmes scolaires, il y a des différences qui sont… Donc, ça, c'est pas la même approche, on va dire. Par exemple, si on prend le côté du langage, on ne va pas intervenir chez tous les enfants qui ne parlent pas à l'âge de 18 mois, 2 ans. On n'y arriverait pas. Hein. Ça représente 10 à 12 % d'enfants. Vous pouvez imaginer qu'une population avec 6 000 enfants qui naissent par année, ce que ça représenterait comme nombre d'enfants qui devraient être pris en charge. Par contre, si l'enfant ne prononce toujours pas de mots après l'âge de 3 ans, ou un problème évident de communication, une prise en charge précoce s'impose. L'école, c'est un petit peu le même type de modèle. Si l'enfant, au bout de 18 mois à peu près, on dit à peu près à partir de la fin de la 2P, à des difficultés majeures dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, qui vraiment frappe, hein, je dirais, on se rend compte, il n'arrive pas à faire le lien entre le nom et le son des lettres, l'approche du décodage syllabique à partir de la 3P s'avère difficile, et on voit que c'est un enfant pour lequel vraiment ce système-là est difficile, il faut agir. C'est des enfants dont on sait qu'ils vont malheureusement garder des difficultés. En mathématiques, c'est un peu plus difficile d'identifier, il y a quelques signes prémonitoires, des enfants qui ont de la peine à apprendre le nombre, à commencer à faire des comptages. Et ça, les enseignants s'en rendent bien compte. Hein. Ils ont cette sensibilité maintenant au niveau primaire, hein, dans les premiers degrés déjà, de pouvoir repérer et d'identifier. Puis le cas échéant, dire aux parents, je trouve que votre enfant a des difficultés dans tel et tel domaine. Ils repèrent aussi des difficultés dans le domaine graphique, hein, dans les fameux 10 que vous avez mentionnés. Il y a ces fameuses dysgraphies ou des enfants dyspraxiques, où pour eux, le geste est extrêmement difficile. Et ça se voit aussi. Des enfants qui ont beaucoup de peine à élaborer un dessin figuratif, qui tracent encore des traits. On se dit, mais comment on va les aider? Et puis qui sont déstabilisés parce qu'ils voient que leur petit voisin est beaucoup plus à l'aise qu'eux, et ainsi de suite.
J'aimerais juste compléter ce qu'a dit le docteur Flousse, de dire que un signe d'alerte qui est absolument sans appel, et là, il faut agir, c'est quand il y a une perte d'acquisition. Et ça, quand il y a un enfant qui savait faire quelque chose, par exemple, parler, dire quelques mots, faire quelques gestes, et qu'il les perd, et ça, ça arrive dans la, entre la première et la deuxième année de vie, là, c'est vraiment un signe d'alerte extrêmement rouge, mais dans tous les domaines du développement. Et puis, pour revenir sur l'exemple du docteur Frus par rapport à la communication, c'est vrai que la communication, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose qui est en place extrêmement tôt. Donc, en fait, quand un enfant à 12-18 mois n'a pas acquis les premiers, les prérequis du langage qui sont la communication en fait non verbale, on est en fait déjà très tard. Donc, vraiment, pour les troubles de la communication hein, qui sont présents dans le trouble du spectre de l'autisme, 18 mois, on est déjà au bon moment pour agir, parce qu'en fait, on a déjà plusieurs mois où ça devrait être là. Et d'autres choses, comme disait le docteur Fous, par exemple le langage, là par contre, on a une fenêtre plus large et on peut attendre plus longtemps. Donc, ça dépend vraiment des domaines, des domaines, mais je dirais surtout s'il y a une perte d'acquisition, ça c'est une alerte rouge, et là il faut aller voir un professionnel, en particulier le pédiatre, la pédiatre.
Bon, c'est bien. Vous avez répondu à ma question, parce que moi qui a bientôt 40 ans ne sais pas dessiner autre chose qu'un bonhomme bâton, vous voyez, je commençais un peu à m'inquiéter.
Oui, moi aussi je fais des traits, je crois qu'on s'entend bien.
Vous avez toujours été comme ça, et puis je crois qu'un des éléments vraiment aussi importants, c'est ce rythme d'acquisition, de voir que ça continue à progresser, mais néanmoins un rythme d'acquisition lent, s'il reste très lent, le décalage avec les pairs va augmenter. Donc, on ne peut pas juste dire « Oh, mais il est plus lent que les autres, il va rattraper. » Quand on a un rythme plus lent que les autres, pour rattraper, il faut aller deux fois plus vite que les autres. Donc, ça, c'est aussi un petit peu une représentation que parfois les parents ont qui est pas toujours réaliste. Hein, ce terme de rattrapage quand on a eu un rythme plus lent. Parce que quand on part de plus bas, ben, pour rattraper, il faut aller plus vite parce que tout le monde avance, tous les enfants avancent, tous les enfants font des progrès.
Le regard de la société est important aussi. Vous avez parlé de dyspraxie. Je connais un enfant qui souffrait de dyspraxie, en fait. Donc, vous nous expliquerez un peu plus clairement ce que c'est, mais c'est avoir du mal à s'habiller, oublier son blouson, même quand il fait froid. Et souvent, on disait aux enfants, mais enfin, n'oublie pas ton... Enfin, on les gronde, on les dispute, et on ne voit pas...
Un jour, tu oublieras ta tête.
Voilà, un jour, tu oublieras ta tête, et en fait, ils n'y peuvent rien. Est-ce que c'est un peu ça, la dyspraxie ?
Ouais, il y a un peu de ça, en effet, mais c'est... Bon, la définition, c'est en fait, c'est des difficultés dans l'apprentissage d'un geste qu'on appelle culturel. Ça peut être, en effet, s'habiller, écrire, utiliser des couverts, utiliser un ciseau, et qui sont en effet des gestes importants hein, dans la vie de l'enfant, que ce soit à l'école ou au domicile. Mais évidemment, à l'école, ça va surtout se traduire par ces difficultés dans le domaine de l'écriture, par les découpages, mais également difficultés parfois d'appréhender l'espace, les premières copies de figures géométriques. C'est souvent des enfants, je ne sais pas si c'est votre cas, vous, journaliste, mais c'est souvent des enfants qui compensent souvent par une très bonne aptitude verbale et ils vont essayer peut-être de cacher un peu leurs difficultés en étant plutôt à l'aise pour communiquer et puis mettre un peu en arrière-fond tout ce qui demande un tout petit peu d'habileté manuelle.
Donc on entend qu'il faut être vigilant et.
Je souris sous mon masque.
Ne pas lâcher l'affaire.
Mais je trouve que ce que vous soulevez là est très important et c'est la même chose pour les petits, c'est que une des raisons pour lesquelles nous on fait aussi ben, ces bilans, hein, diagnostiques, là on parle vraiment d'un enfant avec une suspicion avérée, donc une haute suspicion de trouble, et nous, c'est notre rôle à nous les médecins et puis parfois d'autres professionnels de faire des diagnostics et de vraiment regarder quelles sont les forces et les faiblesses de ces enfants, c'est aussi pour que les attentes de l'environnement, des parents, de l'école puissent s'adapter à ces difficultés et qu'on ne soit pas toujours en train de leur faire des demandes qui sont totalement au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Et il y a toujours cette balance qui est très, très subtile et qu'on connaît en tant que parents que nos enfants aient des difficultés ou pas, mais c'est jusqu'où est-ce qu'on pousse un enfant parce qu'on sent que ça va lui permettre de faire le prochain pas d'acquisition. Et jusqu'où est-ce qu'on respecte aussi que ça, c'est trop dur pour lui, pour elle, et qu'il faut respecter ça et aller à son rythme. Et c'est cette balance subtile qu'on essaye d'aider les parents et les professionnels à faire pour que l'enfant puisse s'épanouir son potentiel, mais garder confiance en lui et pas toujours être face à des difficultés qui sont pour lui insurmontables, qu'il soit tout petit ou plus grand.
En somme, parmi toutes les choses dont vous parlerez demain, je le rappelle, 18h30, y compris à distance, vous retrouvez le lien sur radiolac.ch, c'est la dédramatisation, c'est-à-dire qu'il faut commencer par en parler, parce que je peux qu'imaginer dédramatisation, je veux dire du terme, parce que, encore une fois, hein, on est parents, on va faire un rejet d'à peu près tout ce qui peut être négatif pour son enfant, mais donc il faut en parler.
Oui, moi je pense que c'est absolument ça. L'idée vraiment qu'on a eue avec la doctoresse Leuchter, quand on nous a dit, ça serait bien de faire une conférence sur la thématique, c'est de se dire, on va pas commencer à faire un listing, on va pas donner des recettes de cuisine. On va juste dire, oui, en effet, c'est une réalité qui touche les enfants, qui touche les médecins, qui touche les psychologues, les ergothérapeutes, qui touche l'école, qui touche aussi nos politiques, hein, dans les différentes modalités qu'il faut mettre en place pour avoir des systèmes adaptatifs sur le plan scolaire. Et puis je pense que faire passer ce message, oui, en effet, c'est quelque chose qui est connu. Puis pour les parents, en fin de compte, si on ajoute la prévalence de tous ces troubles, c'est facilement 10 à 15% d'enfants au total qui éprouvent ce type de difficultés. Donc, c'est vraiment malgré tout dans chaque classe, il y a des enfants avec ces trajectoires différentes, sans les stigmatiser, mais quand même en disant oui, ça existe. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses pour leur faciliter la vie au jour le jour. Il y a des choses à faire, en effet, pour qu'ils ne dépriment pas en classe, en disant, moi, je suis nul parce que j'arrive pas à faire, parce que je suis nul en orthographe, puis j'ai des traits rouges sur ma feuille de dictée parce que j'ai pas réussi à faire tel et tel exercice. Et puis, il y a une compréhension de ça. Et c'est vrai que je pense que plus on transmet cette information, à mon avis, c'est mieux, à mon avis, on arrive à faire passer ce message.
Allez-y, docteur Leuchter, je vous vois avoir envie de réagir.
Je voulais juste parler des plus petits, de nouveau, parce que c'est un petit peu la population, les enfants que je vois beaucoup, et aussi vraiment rappeler aux parents, aux écoles, qu'on ne peut pas attendre de chaque enfant la même chose, clairement. Et puis là, le docteur Faust parlait de l'école, mais c'est vrai qu'il y a des enfants pour lesquels le rythme scolaire, malgré toutes les adaptations, est trop élevé et trop difficile. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir. Quel est le contexte dans lequel mon enfant va pouvoir le mieux apprendre et où les apprentissages qui lui seront demandés seront le plus adaptés à ce qu'il peut faire. Et je n'ai pas du tout envie de faire de politique, parce que ce n'est pas du tout l'idée, mais juste vraiment de se rendre compte, ce qu'on veut, c'est que notre enfant, que chaque enfant puisse s'épanouir, soit heureux et se sente accepté, tel qu'il est, et pas toujours en porte-à-faux.
Et j'ai une dernière question, mais pour être franc, je ne sais pas si vous aurez la réponse, car vous êtes pédiatre et neuropédiatre, mais il y a énormément de troubles différents, à des degrés extrêmement différents. Si on ne s'est pas rendu compte d'un trouble pendant l'enfance, la petite enfance, est-ce qu'on peut agir dessus à l'âge adulte ?
Alors ça, c'est une très bonne question, et je sais pas, je pense que Joël Flous, tu as la même expérience que moi, mais moi j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir avec un enfant qui a un trouble et qui après coup se disent « mais… je me demande si moi, j'ai pas la même chose avec, et là, je parle en particulier, par exemple, du trouble du déficit d'attention et hyperactivité qu'on n'a pas mentionné, mais qui fait partie de ces troubles, mais aussi les troubles du spectre autistique avec un spectre qui peut être assez large, avec des parents qui se sentent tout à fait en partie adaptés, mais qui se sentent aussi en partie un tout petit peu, oui, que ça n'a pas toujours été facile et qui se posent cette question et qui, parfois, font ces démarches diagnostiques et puis sollicitent les aides nécessaires, que ce soit thérapeutique, que ce soit médical, que ce soit différentes aides.
Mais donc là, quand on est parent, on ne peut pas aller vous voir, même si vous êtes pédiatre.
c'est
dommage, il faudrait des parents-diatres, un truc
alors,
comme ça.
Parce que j'ai déjà dit, dernière question, mais à cause de votre réponse, j'en ai une autre. Est-ce que parfois, franchement, entre vous et nous, est-ce que parfois, et les auditeurs, et Trice, il y a des parents qui viennent vous voir en disant, mon enfant, il est hyperactif, parce que moi, j'ai déjà, comme ça, des amis. Hein. Ah, moi, je suis sûr, il est hyperactif. Non, il est juste chiant. Ça arrive, c'est pas grave. Mais il est pas forcément, c'est pas forcément un trouble. Parfois, on a des enfants qui sont un peu difficiles et qui sont un peu tête en l'air.
Alors, non, mais c'est une bonne question. Moi, en général, la plupart du temps, s'ils ont cette hypothèse-là, ils viennent pas nous voir.
Ils ont fait un autodiagnostic, oui.
Par contre, nous, on doit faire attention de ne pas forcément porter toujours de diagnostic sur tous les enfants qui sont amenés pour une suspicion de trouble. Parce qu'en effet, on peut avoir des personnalités différentes, on peut avoir des conflits de fratrie qui fait qu'un enfant passe une mauvaise période. L'hyperactivité peut être aussi… finalement, la manifestation d'un trouble anxieux ou d'une déprime chez un enfant. Donc, il faut que nous, de l'autre côté, c'est pas parce que les parents nous disent « oui, il a tel et tel trouble » qu'on doit forcément justifier ce trouble-là. Peut-être que je ne réponds pas complètement à votre question, mais on doit faire aussi peut-être attention à cela. Et puis, juste pour revenir à votre question précédente, bon, Roussia en avait déjà parlé. Évidemment, on ne vit pas à la même époque qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années. On a quand même des outils, on a des correcteurs d'orthographe. On a des stylets de lecture, on a des outils scripteurs.
Oui, le but, c'est d'aider ces enfants. C'est vraiment de les aider, de leur apporter un confort et d'être un peu plus heureux au quotidien.
Et on a des outils qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années qui fait qu'on arrive à adapter quand même le matériel de manière tout à fait différente. Alors, c'est pas que je prône, alors je suis encore fanatique du papier crayon, même si j'ai une très mauvaise écriture, mais n'empêche qu'on voit que les enfants qui peuvent utiliser des claviers, le iPad Pro et des choses comme ça, ben, ils vont, je suis désolé, j'ai mis de la publicité pour,
c'est pas grave. Pour
une tablette, on va dire, pour être correct. Bah, évidemment, bah, ça va les soulager dans leur vie quotidienne.
Mais ça veut aussi dire qu'il faut. On entend souvent, oui, c'est la mode en ce moment, tout le monde est 10, tout le monde a un machin. Non, s'il y a une mode, c'est parce qu'on n'y fait plus attention qu'il y a 20 ans. Ça, c'est mon coup de gueule, j'ai horreur de ça, quand on dit c'est la mode.
Alors, il y a toujours eu hein, le cancre de la classe, etc., etc. Donc, des enfants avec des trajectoires atypiques, il y a toujours eu, aussi des tout petits avec des trajectoires atypiques, il y a toujours eu. Il y a certainement une prévalence augmentée, dans une incidence et prévalence augmentée maintenant du trouble du spectre autistique, mais les troubles du développement ont toujours existé.
Je voulais juste vous rassurer, docteur Flou, c'est évidemment que vous avez une mauvaise écriture, vous êtes médecin, voyons, oui. C'est tout à fait normal.
Merci.
Rendez-vous donc demain, voyez, autre avantage de la technologie, le logiciel Zoom qui permettra d'assister à la conférence sur les troubles du développement et des apprentissages, un défi pour tous. Alors je rappelle, si vous voulez y aller en présentiel, inscrivez-vous avant auprès de la Fondation Prime Enfance, mais c'est à l'hôpital des enfants, DHUG, auditoire Bamater, et puis sinon vous allez sur radiolac.ch, qu'on a beaucoup papoté pendant la musique, on a plein de choses intéressantes à se dire, donc vous allez trouver la version longue de notre conversation et le lien se trouvera là-dessus. Docteur, merci infiniment vraiment, doctoresse Roussia Avin Leuchter, pédiatre du développement au HUG, docteur Joël Flous, neuropédiatre au HUG également, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Avec Benjamin Smadja et Elsa Dupéret,
la journée finit bien. Adieu.